Chers camarades, chers amis, je voudrais d'abord vous remercier tout simplement d'être là, fidèle à ce rendez-vous pour partager ce moment fraternel et pour prendre le temps de discuter de la situation et des perspectives politiques pour les travailleurs. Tous les jours, la télévision et la presse évoquent des signes de reprise. Je ne vais pas m'étendre sur les possibilités que l'économie renoue avec la croissance. D'abord, parce que personne n'en sait rien, pas plus les experts économiques que le gouvernement. Regardez le gouvernement, il n'est même pas capable de compter les chômeurs. Parce qu'on l'a appris cette semaine, cette fameuse baisse qui avait été enregistrée au mois d'août est en réalité un bug informatique. Alors, les travailleurs, surtout, n'ont aucune raison de se laisser distraire par tous ces pronostics sur la reprise. Parce que les travailleurs n'auront que faire d'une reprise si les licenciements et les fermetures d'usines continuent, si les salaires restent bloqués et si les chômeurs continuent d'être condamnés au petit boulot. Qu'il y ait 0%, 0,5% ou 1% de croissance en 2014, qu'est-ce que cela changera si le gouvernement continue ses attaques contre les travailleurs et les retraités? Les PDG des grands groupes peuvent, eux, se montrer confiants et optimistes. Même au plus fort de la crise, ils ont réussi à préserver leurs profits et à garantir les dividendes aux actionnaires. Même les banques, pourtant responsables du crack, puisqu'elles ont été mises sous perfusion d'argent public. Bien sûr, les gros requins en ont profité pour manger les plus petits. Mais si certains y ont perdu, d'autres y ont gagné. Et globalement, les capitalistes ont augmenté leur fortune et leur pouvoir sur l'économie. L'année dernière, alors qu'on nous disait que ça allait encore très mal pour les affaires, alors qu'on a compté chaque jour 1000 chômeurs de plus, eh bien les patrimoines des 500 plus riches du pays ont augmenté de 25%. Alors oui, la bourgeoisie se porte très bien, mais elle a laissé derrière elle un champ de ruines, avec des travailleurs condamnés au chômage et à la misère, avec des usines fermées et des régions entières sinistrées. Les grands groupes capitalistes ont profité de la crise. Parce qu'ils en ont profité pour restructurer, licencier, fermer les usines devenues moins rentables et intensifier l'exploitation. Ils en ont profité pour recevoir des aides et des exonérations en tout genre. Ils en ont profité pour faire reculer les salaires, pour faire reculer les droits des travailleurs des années en arrière, de façon à les transformer en main-d'œuvre malléable et corvéable. Tout cela avec la complicité d'abord du gouvernement Sarkozy-Fillon et, depuis un an maintenant, avec l'aide servile du gouvernement Hollande-Hérault. Oui, la crise a bien profité au grand patronat. Et il ne s'arrêtera pas dans si bon chemin. Toutes ces attaques ont divisé et affaibli le monde du travail. Et même en admettant que la croissance revienne, le patronat ne cédera pas ce qu'il a gagné. Il ne le lâchera qu'à condition que les travailleurs se battent pour leur dû. Même aujourd'hui, alors que le grand patronat et le gouvernement se veulent rassurants, ils nous expliquent qu'il faut encore faire des sacrifices. Le pire est passé, disent-ils, mais ils continuent de s'en prendre aux salaires, aux emplois, aux conditions de travail. Au nom de la compétitivité, ils se sentent tout permis. Le chantage à l'emploi est devenu monnaie courante. Demander à travailler plus tout en étant moins payé est devenu banal. Et d'autant plus banal que grâce au gouvernement Hollande-Hérault, c'est même devenu une loi. Une loi exigée par le MEDEF et votée par les députés de droite et ceux, bien sûr, du Parti Socialiste. Alors aujourd'hui, tous les grands patrons veulent leur accord de compétitivité qui forcera les salariés à travailler plus pour moins de salaire, qui forcera les ouvriers à être encore plus mobiles, encore plus flexibles. Et pourquoi le patronat se gênerait-il quand le gouvernement fait à peu près la même chose dans le public, que ce soit à la SNCF, dans les hôpitaux ou dans l'éducation nationale? Pour le grand patronat, pour les grands actionnaires, pour le gouvernement, le pire est peut-être passé. Mais pour les travailleurs, le pire est à venir s'ils se laissent faire. La classe ouvrière est attaquée de tous les côtés. Chômage, flambée des prix, aggravation des conditions de travail, sans oublier les impôts. Combien de travailleurs ont reçu un choc en découvrant leur avis d'imposition? Combien ont cru même à une erreur du fisc? C'est un coup de massue pour ceux qui sont devenus imposables et qui se retrouvent en plus à devoir payer la redevance télé et la taxe d'habitation. Mais c'est aussi un drame pour tous les travailleurs et retraités modestes qui se retrouvent à devoir payer 100, 200, 300 euros de plus alors qu'ils se serrent déjà la ceinture et alors que cela va empirer dans les mois à venir. Parce que le gouvernement a décidé d'augmenter la TVA, de baisser encore le plafonnement du quotient familial, de fiscaliser la part patronale qui participe à la complémentaire santé, etc., etc. Parce que, contrairement aux mensonges du gouvernement, il n'y aura pas de pause fiscale en 2014. Mais l'autre aspect du budget, les fameuses économies dont se vante beaucoup le gouvernement, sont tout aussi révoltantes. Ce ne seront pas 15 milliards d'économies pour la population. Ce seront 15 milliards de coupes dans les services publics, dans les collectivités locales, des milliards de coupes dans les budgets sociaux, des coupes pour les hôpitaux. Combien de suppressions d'emplois seront encore programmées dans les hôpitaux? Combien de communes manqueront d'argent pour restaurer les écoles ou pour aider les familles à payer la cantine? Et combien de départements réduiront leurs aides sociales? Combien d'associations aussi seront sacrifiées parce qu'elles n'auront plus les mêmes subventions? Tout ce que l'État et les collectivités ne feront plus, eh bien il faudra passer par des entreprises privées pour l'obtenir. Et en payant, alors non, ces 15 milliards ne sont pas des économies pour les plus pauvres, mais de nouveaux sacrifices. Et puis, il faut aussi beaucoup de cynisme pour oser parler du bout du tunnel, comme le font certains ministres ou députés du Parti Socialiste, au moment où ils s'attaquent une fois de plus aux retraites. Où est-il le bout du tunnel pour tous ceux qui voient leur retraite diminuer et reculer de réforme en réforme? Et ne parlons pas des jeunes qui se disent qu'ils devront cotiser toute leur vie sans même pouvoir être sûr de toucher une retraite. Il faut travailler plus longtemps, parce qu'on vit plus longtemps est devenu le leitmotiv de tous les dirigeants de gauche, de droite confondus. Mais près de 5 millions de chômeurs voudraient travailler tout court. Alors, avant de forcer les anciens à crever au boulot ou au chômage, eh bien, il faudrait arrêter les licenciements, embaucher les jeunes, répartir le travail entre tous. Voilà ce qui rendirait les têtes. Les socialistes qui avaient dénoncé la réforme des retraites de Sarkozy quand ils étaient dans l'opposition sont en train de l'entériner et même de l'aggraver maintenant qu'ils sont au pouvoir. Nous demandons de nouveaux efforts, mais avec plus de justice, prétendent-ils. Mais quelle justice? Même l'engagement de faire payer autant le patronat que les salariés au Hollande ne l'a pas tenu. Parce que pour les patrons, l'augmentation de cotisations sera compensée par la baisse des cotisations familiales, mais les travailleurs, eux, y paieront. Et ils paieront entièrement. Quant à dire que l'âge de départ de 62 ans n'est pas modifié, c'est vraiment se moquer du monde. Avec 43 ou 44 annuités de cotisation, il faudrait commencer à travailler à 19 ou 18 ans, n'avoir aucune interruption pour toucher une retraite complète à 62 ans. Alors, tout est odieux dans cette nouvelle attaque contre les retraites. Jusqu'à la façon sournoise qu'a le gouvernement de voler les retraités en décalant la revalorisation des pensions du 1er avril au 1er octobre. Parce que ce qui n'est en apparence qu'un petit report de date est un racket à grande échelle, puisque le gouvernement volera 1,5 milliard dans les poches des retraités. Alors, si les ministres et la bourgeoisie ont de quoi être optimistes, eh bien les travailleurs, eux, ils ont de quoi être en colère. Avec la crise et avec la complicité du gouvernement, de droite et de gauche, le grand patronat a aggravé l'exploitation. Il a perfectionné son système pour pressurer plus les travailleurs, pour les payer moins, et il a marqué des points dans la guerre de classe. Cet avantage-là, il ne le lâchera qu'à condition que les travailleurs se battent. Les quelques milliers de grands bourgeois et de spéculateurs qui ne sont que des parasites ont été bichonnés pendant la crise. Quand les travailleurs qui forment la classe productive, qui constituent la base indispensable au fonctionnement de la société, ont été affaiblis, acculés à la survie. Et bien que les travailleurs fassent entendre leur voix, leurs intérêts d'exploiter est aujourd'hui une nécessité vitale. Une nécessité vitale pour eux, mais aussi pour toute la société et pour son fonctionnement. Oui, les travailleurs n'ont aucune raison de se taire. Les travailleurs ont le droit moral de se défendre, de se battre pour ne plus reculer et pour rétablir leurs conditions d'existence. La priorité et l'urgence pour les travailleurs, c'est la fin des licenciements, l'interdiction des licenciements et le partage du travail sans diminution de salaire, de façon à résorber le chômage. Pour ceux qui ont un salaire et un emploi à temps plein, la vie devient de plus en plus difficile. Et bien pour les chômeurs, c'est encore pire. Parmi ceux qui ont été licenciés ces dernières années, combien ont épuisé leurs droits au chômage et sont tombés dans les minima sociaux qui permettent tout juste de survivre ? Combien sont menacés aujourd'hui de perdre leur toit après avoir perdu leur emploi ? Empêcher que l'on tombe au chômage est une question de survie. Au nom de la protection de la vie humaine, il est interdit aux propriétaires d'expulser leurs locataires pendant l'hiver. Eh bien, il faut se battre pour qu'au nom de la protection de la vie, il soit aussi interdit de licencier. Pour résorber le chômage, il faut qu'il y ait des embauches. Partout où le personnel manque, partout où la cadence de travail et les horaires sont devenus insoutenables, partout où les salariés ne peuvent plus poser leur congé, il faut des embauches en CDI, de vrais emplois, avec des salaires pleins et entiers. Et il faut arrêter avec ces contrats précaires, scandaleux, où tous les deux ans, un travailleur en remplace un autre, mis au chômage. Oui, il faut arrêter de concentrer tout le travail sur les travailleurs de moins en moins nombreux, mais au contraire, imposer de le répartir avec un salaire entier, parce qu'un emploi et son salaire qui va avec est la seule richesse des travailleurs. Le revendiquer est un droit légitime. Pour que chacun vive dignement aujourd'hui, il faut relever le SMIC à 1700 euros net. Et il faut obtenir qu'il augmente au même rythme que les loyers, que le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances, et ce, pour tous les salaires, les pensions de retraite et les minima sociaux. Si aujourd'hui les salariés demandent à travailler le dimanche ou la nuit, ce n'est pas parce que ça les amuse. C'est parce qu'ils touchent justement des salaires de misère. C'est parce que les patrons... que les patrons augmentent directement, immédiatement leur salaire de 10 à 20% et on verrait justement qu'il manquerait de volontaires. Le travail du dimanche, comme les heures supplémentaires ou le travail de nuit, n'ont rien à voir avec le volontariat. C'est pour les travailleurs sous-payés une situation imposée et forcée. Nous ne faisons pas du repos dominical un principe. À l'origine de l'interdiction du travail du dimanche, c'est la volonté du patronat et du clergé d'inciter les travailleurs à aller à la messe plutôt qu'au café ou aux réunions politiques et syndicales. Autant dire que nous n'en faisons pas un principe. Et d'ailleurs, une société qui serait organisée tout autrement et qui ne serait pas basée sur l'exploitation et sur le profit pourrait fonctionner bien autrement, avec bien d'autres rythmes de travail et sans doute avec beaucoup plus de jours de congé dans la semaine. La question du travail du dimanche, comme la question des heures supplémentaires, masque le seul vrai problème qui est celui des salaires. Et les travailleurs ne pourront pas le résoudre avec des arrangements individuels. La seule solution est le combat collectif pour l'augmentation de tous les salaires et leur indexation automatique sur l'inflation. À travers ces objectifs, les travailleurs ne font que revendiquer le droit à la vie. Mais c'est trop pour la bourgeoisie. Vous connaissez son discours. Il n'y a plus d'argent, augmenter les salaires, embaucher est impossible. Le pays a un problème de compétitivité. C'est pourquoi ces deux objectifs sont liés à un troisième, celui de contrôler les comptes et les décisions des entreprises. On ne peut pas et on ne doit pas croire sur parole les dirigeants de la bourgeoisie. Les mêmes qui expliquent qu'ils ne peuvent plus payer leurs cotisations pour la sécurité sociale versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG. Les mêmes qui refusent d'augmenter les salaires au rythme de l'inflation trouvent normal de verser des dizaines de millions aux grands actionnaires. Millions qui seront dilapidés dans des caprices de riches ou pire encore dans la spéculation. Le grand patronat a érigé le mensonge en art de gouverner. Souvenez-vous comment la direction de Peugeot Citroën avait juré il y a 2 ans qu'il n'était pas question de fermer l'usine d'Aulnay-sous-Bois de 2 800 travailleurs en Seine-Saint-Denis, un des départements les plus sinistrés du pays. Y compris quand la CGT de l'usine avait pris connaissance d'un document tout à fait officiel, mais interne, qui prouvait le contraire. Et vous connaissez la suite, la fermeture d'Aulnay en mars prochain. Alors, briser le secret des affaires, faire circuler les informations entre travailleurs et les rendre publiques est le seul moyen de vérifier, de savoir ce qu'il en est réellement des comptes, de l'argent qui entre et qui sort, et des problèmes réels des entreprises. Dévoiler les plans secrets des patrons ne remplace certes pas la lutte nécessaire pour les empêcher, mais cela la facilite. Aujourd'hui, le groupe PSA voudrait mettre en place un accord de compétitivité, c'est-à-dire le maintien des profits. Pour justifier les heures supplémentaires gratuites, les journées de chômage sans limite, la taxe sur les congés, la direction a cédé un chiffre. Une journée de stock de véhicules sur les parcs des usines lui coûterait 70 millions d'euros par jour. Mais d'où sort ce chiffre? Comment a-t-il été calculé? Le patron refuse de répondre. Eh bien, pour savoir la vérité, les travailleurs n'auraient pas d'autre solution que d'aller mettre leur nez eux-mêmes dans les comptes, éplucher toute la comptabilité. Ils auraient ainsi la preuve que tout est faux. Oui, il faut mener le combat pour empêcher les licenciements. Il faut mener le combat pour des augmentations de salaire. Et il faut se battre pour faire respecter les droits des travailleurs. Et tout cela nécessite de s'immiscer dans les comptes du patronat. Cela nécessite de contrôler les dires des patrons. Oui, pour les empêcher de nuire, il faudra mettre tout ce grand patronat sous surveillance collective des travailleurs. Mener à bien les luttes quotidiennes nécessite aussi de ne pas tomber dans le piège de la compétitivité. Le patronat et la droite, son allié naturel, ont toujours cherché à faire croire que l'avenir de l'économie, du pays, de ses travailleurs, de ses chômeurs, de ses jeunes, de ses vieux, dépendait de la compétitivité des entreprises. Ils ont toujours défendu l'idée que l'augmentation de la compétitivité devait être le seul et unique objectif de toutes les politiques publiques. Eh bien, depuis qu'ils sont au pouvoir, les socialistes s'y sont mis eux aussi. Et certains dirigeants syndicaux s'y sont mis aussi. Sans compter la multitude d'experts et de journalistes économiques qui le répètent une bonne centaine de fois par jour, comme s'ils voulaient l'enfoncer dans tous les esprits à coups de marteau. Mais qu'est-ce que les travailleurs ont à gagner à cette bataille de la compétitivité? Aujourd'hui, en 2013, celui qui revendique un emploi en CDI, la retraite l'année entière, à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisation, un salaire digne, digne de ce nom, est au pire un dangereux extrémiste ou au mieux un utopique. C'est-à-dire que ce qui existait il n'y a de cela que 20 ans est devenu aujourd'hui une folie utopique. Eh bien voilà le résultat de la course à la compétitivité. Pour les travailleurs, la compétitivité c'est le grand retour en arrière, c'est l'exploitation, le travail à la tâche, les salaires de misère. La compétitivité et le capitalisme sont les raisons d'être des patrons, pas des travailleurs. La bourgeoisie veut impliquer les travailleurs dans sa guerre économique, dans la guerre économique qu'elle mène contre ses concurrents. Mais les travailleurs n'ont aucune raison de marcher. Comme ils n'ont aucune raison d'être attachés à cette économie stupide, aucune raison d'accepter de se sacrifier pour une économie basée sur leur propre exploitation et basée sur leur appauvrissement. Faut-il accepter que nos vies patron sera arraché au détriment d'autres travailleurs? Faut-il accepter que notre salaire dépende des bonnes affaires qu'il fera? Non, les travailleurs n'ont pas à se laisser prendre au piège de la propagande sur la compétitivité. Ils doivent revendiquer leur dû, sans se soucier des conséquences sur cette fameuse compétitivité ou sur les profits, sans se soucier de gêner les affaires de la bourgeoisie. La seule perspective pour la classe ouvrière est de se battre pour ses intérêts propres, pour sa survie, quoi qu'il en coûte au patronat. Et si la bourgeoisie et ses serviteurs politiques ne sont pas capables d'assurer le minimum vital aux travailleurs, eh bien, qu'ils laissent la place. Si ce système capitaliste n'est pas en mesure de garantir aux exploités leur droit élémentaire à avoir un emploi et à en vivre, eh bien, il faut le renverser. Les travailleurs ne pourront se défendre efficacement que s'ils ont conscience qu'ils ne doivent pas laisser les capitalistes dire et faire ce qu'ils veulent. Que s'ils ne craignent pas de contester à la bourgeoisie son droit de propriété et de décision sur les entreprises. Que s'ils ne craignent pas de s'attaquer à la propriété du capital. Si encore les PDG des trusts capitalistes dirigeaient bien, si leur économie tournait rond, les travailleurs pourraient s'interroger. Mais ce n'est pas le cas. L'économie capitaliste, basée justement sur cette concurrence, sur la compétition de tous contre tous, est une véritable jungle. Chacun prend ses décisions en fonction de ses intérêts et de ses calculs, propres. S'il est plus profitable de produire et de vendre des armes, va pour le commerce des armes, quitte à déclencher de nouvelles guerres. S'il est plus rentable de spéculer que d'investir, va pour la spéculation, quitte à déclencher famine et crise mondiale. L'organisation capitaliste est une organisation fondamentalement, génétiquement irresponsable et ingouvernable. Et qu'elle soit incapable d'assurer la survie de ceux qui la font tourner, c'est-à-dire les travailleurs, la condamne. Les travailleurs n'ont rien à perdre au renversement de la société capitaliste. Ils ont au contraire un monde à y gagner. Les travailleurs réagiront tôt ou tard aux attaques. Mais pour que leur combat ait une chance d'être mené jusqu'au bout, il faut faire revivre cette conscience de classe et les idées communistes révolutionnaires que le mouvement ouvrier a portées pendant bien des années. Depuis que la classe ouvrière existe, les travailleurs se sont toujours battus pour leurs conditions d'existence. Mais c'est à l'honneur du mouvement ouvrier conscient que d'avoir défendu aussi des idées bien plus générales, celle de la critique radicale de la société capitaliste, de son caractère injuste, incontrôlable, anachronique. La perspective tracée par le mouvement ouvrier révolutionnaire ne se bornait pas à la défense des exploités, mais à leur émancipation, et à l'émancipation de toute la société même, du joug de l'argent. C'était la perspective de détruire la société capitaliste et de la remplacer par une société sans exploitation, sans la dictature des profits. Le mouvement ouvrier a levé non seulement le drapeau de la défense des exploités, mais aussi le drapeau de la société communiste. La transmission de ses idées, de ses valeurs propres à la classe ouvrière et au mouvement ouvrier s'est affaiblie au fur et à mesure des trahisons des partis ouvriers, du Parti socialiste, puis plus tard du Parti communiste, qui se sont intégrés dans la société bourgeoise et qui se sont transformés en gestionnaires loyaux des affaires de la bourgeoisie. En justifiant leur participation gouvernementale, en justifiant la politique anti-ouvrière qu'ils y menaient, ils ont distillé au sein de la classe ouvrière les valeurs et les idées de la bourgeoisie. Au point qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs rebaptisés classe moyenne considèrent que l'économie doit être compétitive et qu'en fin de compte, l'intérêt des exploités, c'est que leurs exploiteurs s'enrichissent. Au point aussi que les idées nationalistes et protectionnistes étrangères au mouvement ouvrier sont présentées comme des évidences. Depuis longtemps, le Parti socialiste est dévoué corps et âme à la bourgeoisie. Mais il essayait de se différencier un peu de la droite, au moins en parole, en faisant entendre ne serait-ce que de vagues idées de tolérance et d'humanisme. Ce n'étaient certes que des mots, mais il n'en reste plus rien aujourd'hui. C'est ainsi que Valls, ministre de l'Intérieur, peut déclarer droit dans ses bottes que les Roms ne peuvent pas s'intégrer et qu'ils doivent être chassés. Sans que cela vienne d'un grand monde au Parti Socialiste, Valls fouille dans les poubelles du Front National. Parce que faire croire que 17 000 Roms est un problème insoluble pour un pays de 65 millions d'habitants est vraiment abject. Bon, tout cela n'est pas vraiment nouveau. Rocard a expliqué, déjà il y a 20 ans, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et c'est au nom de ce principe que l'Europe s'est transformée en forteresse, en érigeant des barbelés et en essayant de transformer la Méditerranée en mer infranchissable. Et la suite, on la connaît. Ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui risquent leur vie pour passer les frontières et qui la perdent, comme ce fut le cas cette semaine à Lampedusa. Cette politique est une politique criminelle. Parce qu'on ne peut pas et on ne doit pas enfermer la misère. La misère, il faut la combattre. De façon à ce que la planète devienne vivable pour tous, où que l'on naisse sur cette planète. Le Parti Socialiste y a renoncé, et bien pas nous. À la trahison des intérêts de la classe ouvrière par les partis ouvriers, s'ajoute la politique tout aussi démobilisatrice des centrales syndicales. Je parle des directions nationales des syndicats, qui dans le meilleur des cas font mine de s'opposer sans réellement armer les travailleurs politiquement, et qui au pire justifient et appuient les attaques du gouvernement et du patronat en contresignant les mesures anti-ouvrières. La perte des repères de classe, ces trahisons successives ont au fil des décennies dérouté et déboussolé les travailleurs. Que certains parmi les travailleurs envisagent de voter pour le Front National, l'ennemi ouvert de la classe ouvrière, ne serait-ce qu'en imaginant donner un coup de pied dans la fourmilière, donne la mesure du recul de cette conscience de classe. Ce n'est certes pas au nombre que nous sommes que nous pourrons inverser la tendance et faire reculer toutes ces idées réactionnaires. Celles-ci se nourrissent d'ailleurs de la situation objective, parce que c'est sur le chômage, sur l'isolement et la misère que prospère le chacun pour soi. La délinquance et la violence, et puis leur pendant tout aussi réactionnaire que sont le rejet des autres et la xénophobie. Mais le fait d'être les seuls à défendre les idées et les perspectives propres à la classe ouvrière rend notre activité et notre politique d'autant plus précieuse et indispensable. Oui, il faut reconstruire un parti qui oppose à tous les partis dévoués au système capitaliste une politique propre aux travailleurs, une politique qui est pour objectif de préserver les intérêts de ceux qui travaillent, une politique de classe qui oppose la classe ouvrière à son ennemi social, la classe capitaliste qui vit de l'exploitation. La victoire des luttes, y compris les plus petites, sont intimement liées à la conscience des travailleurs à mener une lutte à mort contre la bourgeoisie. Elle est liée à la présence dans la classe ouvrière des idées et des perspectives communistes révolutionnaires. Le combat des travailleurs pour leurs objectifs vitaux et pour renverser la société capitaliste ne font qu'un. Alors il faut continuer à faire entendre cette voix comme nous le faisons dans nos activités quotidiennes. Et pour que les travailleurs ne soient pas réduits à devoir choisir aux élections municipales puis aux élections européennes, entre des candidats qui se placent tous dans le cadre de l'organisation capitaliste et sur le terrain de la bourgeoisie, et pour qu'ils puissent faire entendre le camp des travailleurs contre la bourgeoisie et ses serviteurs politiques, eh bien nous essaierons d'être le plus présents possible dans ces deux élections. Les travailleurs deviendront une force politique capable de peser quand ils opposeront à l'Union nationale et au poison de la préférence nationale, la préférence de classe, quand ils diront les exploiter d'abord, et quand ils auront conscience qu'ils doivent se battre pour le pouvoir et qu'ils peuvent, collectivement, diriger mille fois mieux la société et l'organiser sans la recherche du profit, sans la concurrence, sans les lois du marché. Les grands et les petits combats se mêlent d'abord dans les têtes, dans la conscience que les travailleurs ont de leur capacité et de leur rôle dans la société. Sur ce terrain-là, nous pouvons être utiles et préparer l'avenir. Il y a bien des choses que nous ne pouvons pas faire et pas empêcher. Mais il y en a au moins une qui dépend de nous, c'est de dire ce que nous pensons, c'est d'affirmer notre politique communiste révolutionnaire, faire vivre nos idées parmi les travailleurs. Alors, camarades, je vous souhaite une bonne fête et bon courage pour poursuivre le combat.